Écho d'économie. Sur Radio Okapi, la vie économique du Congo a une vitrine. Écho d'économie. 18h15, heure de Kinshasa, un magazine qui prend la température. Les marchés, la vie des entreprises, le monde rural, des questions se posent, nous y répondons clairement. Les bonnes initiatives, une nouvelle idée, reportage sur le Congo qui bouge. 18h15, Écho d'économie, une émission de référence qui parle à tout le monde.
Pour corriger les élèves dérangeurs, certains enseignants recourent, à divers types de punitions. Certains mettent les élèves à genoux sous le soleil, d'autres frappent leur bout de doigt avec une règle en bois. Ils peuvent aussi envoyer certains arroser les champs situés derrière les salles de classe ou balayer la cour de l'école pendant que les autres étudient. Et bon nombre d'instituteurs préfèrent la chicotte. Le fouet pour rétablir l'ordre et la discipline. Mais la grande question est de savoir aujourd'hui quel type de punition à infliger aux élèves, quelle est la meilleure sanction à infliger aux élèves. Monsieur Jean Moupépé est promoteur d'école, expert en sciences de l'éducation. Il vous arrive de temps en temps aussi de punir certains élèves dérangeurs.
Il arrive de punir, bien sûr, parce que d'entrée du jeu, il faut reconnaître que dans une classe, il est normal que tout élève se comporte un jour ou l'autre de façon inacceptable. Mais est-ce qu'il faut absolument punir? Et comment faut-il punir? Quel type de punition infliger à un élève en faute? Et pourquoi? Ce sont autant de questions qu'il faut se poser. Alors, il faut vous mettre déjà dans la tête que quand un enseignant se trouve en classe, sa préoccupation, c'est de donner sa leçon, d'enseigner. Mmh. Et il n'entend pas s'occuper de la discipline, régler la discipline, parce que là, ça le distrait de l'objectif principal qui s'est assigné, c'est-à-dire transmettre des connaissances dans une leçon donnée. Donc, un élève qui dérange perturbe l'ordre et l'enseignant cherchera à rétablir cet ordre. Il dévie déjà de la première préoccupation qui justifie sa présence en classe. Mmh. Alors, beaucoup d'enseignants ne savent pas comment s'y prendre, parce que généralement, dans leur formation professionnelle, ils n'ont pas appris comment se comporter face à un groupe de jeunes qui sont turbulents ou qui sont pleins d'énergie.
Mmh. Qui bavardent marche de la classe.
Et remarquez d'ailleurs qu'il arrive que parfois, le plus turbulent, surpris par une question, répond toujours correctement. Ça veut dire qu'il n'est peut-être pas distrait, il suit, pendant que peut-être il distrait les autres. Mmh. Alors, quel type de punition donner? Et pourquoi donner une punition?
D'abord, c'est quoi une punition? Quand on parle de punition, de quoi s'agit-il? D'une punition?
Généralement, il s'agit de réagir contre une faute par rapport à un règlement, par rapport à des convenances bien établies à l'avance. Mmh. Quand un enfant commet une faute, il faut le rappeler à l'ordre, en lui donnant une tâche à faire pour corriger la faute qu'il a commise. Alors, qu'est-ce qu'il faut donner comme punition? Est-ce qu'il faut taper? Est-ce qu'il faut exclure l'élève de l'école et de la classe? Parce que généralement, l'élève qui dérange, parfois il cherche à sortir de la classe. Et il trouve comme prétexte, je dérange, on me mettra dehors. On va le mettre dehors.
Donc, il n'a pas envie de rester
Il n'a pas envie, la leçon ne l'attire pas. Et il dérange, il perturbe l'ordre pour que vous le mettiez dehors. Là, qui a gagné? C'est l'élève. Mmh. Alors, pour punir, il faut d'abord amener l'enfant à comprendre la faute qu'il a commise. C'est ça le point de départ. Parce qu'une punition doit être formative. Elle doit former l'enfant. Elle doit ramener l'enfant à une certaine discipline consentie. Par conséquent, on l'amène d'abord à reconnaître que ce qu'il a commis comme acte est une faute. Il accepte que c'est une faute qu'il a commise et il accepte aussi de se corriger. Donc, il faut éveiller la conscience de l'enfant par rapport à la faute qu'il a commise. Pas tout de suite taper. Deuxième étape.
Il doit d'abord reconnaître pourquoi on le punit.
Bien sûr, pourquoi on lui fait des reproches. Mais si vous ne l'aidez pas, il ne comprendra pas. Et généralement, on dit, en ce moment-là, l'enseignant perd beaucoup de temps parce qu'il s'y prend mal. Il se préoccupe de régler l'ordre, de remettre l'ordre dans la classe et le temps qu'il aurait dû mettre pour enseigner, il le perd à corriger. Alors, dès que vous avez fait prendre conscience à l'enfant de la faute qu'il a commise, vous l'amenez peut-être aussi à dire ce qu'il peut faire pour réparer la faute. Vous l'amenez à une compréhension, à une coopération, à une entente.
Donc il faut lui dire, je vais te punir maintenant parce que tu viens de faire ça et ça. Mais il y a certains enfants qui disent, non monsieur, c'est pas moi, c'est plutôt l'autre qui dérangeait.
Oui, c'est peut-être l'autre qui dérangeait, mais ça signifie que vous n'avez pas l'œil sur votre classe. Tout en dispensant votre leçon, vos yeux circulent, observent et peuvent arriver à comprendre que l'enfant nie par peur d'être battu, par exemple. Or, généralement, dans une situation d'indiscipline, la force et la répression que nous utilisons contre les enfants les incite à résister, à se rebeller, à se venger. Vous donnez une punition, vous pensez que vous avez résolu le problème, mais une fois que vous avez le dos tourné, l'enfant recommence.
Il reprend encore la même bêtise.
Bien sûr. Et parfois, il se moque de vous. Il vous attribue un pseudonyme et ça continue. Or, ce que vous voulez, c'est obtenir que l'enfant comprenne qu'il a mal agi et qu'il ne reprendra pas cette faute. À ce moment-là, vous devez chercher à obtenir sa collaboration. Donc, taper incitera l'enfant à s'entêter, l'incitera à se rebeller, à se révolter. Et quelqu'un qui se révolte, il n'a rien compris à ce que vous avez adopté comme mesure pour corriger une faute qui perturbe l'ordre.
Alors, il faut d'abord que l'enfant comprenne pourquoi on va le punir. Alors, oui. Quelle est la meilleure sanction à infliger à un élève?
De façon générale, la sanction doit être proportionnée à la faute. Vous avez donné un exemple tout à l'heure. Vous allez étaler les enfants sur la cour de l'école, regardant le soleil en plein midi, par exemple. Est-ce que vous pensez que c'est proportionné à n'importe quelle faute que l'enfant a commise en classe? Les instructions officielles disent que les punitions corporelles ne sont pas formatives, ne sont pas pédagogiques, sont prohibées. Et quand, par exemple, vous amenez un enfant qui arrive en retard en classe, vous devez lui faire comprendre qu'en venant en retard, il a raté, par exemple, une leçon. Généralement, au début de la journée, les leçons difficiles sont placées aux premières heures. Et un enfant qui a 20 minutes de retard, 10 minutes de retard, 15 minutes de retard, vous l'amenez à dire, monsieur, mademoiselle, vous êtes arrivé avec 10 ou 20 ou 30 minutes de retard, vous avez perdu une partie de la matière importante que vous devriez apprendre. Est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes en train de vous causer du tort? Oui, l'enfant dit, je me rends compte que j'ai raté une partie de la leçon. Alors, on peut par exemple lui demander, je ne viendrai plus en retard.
Mais écrivez ça pendant 100 fois.
Non.
Je ne viendrai plus jamais en retard.
La punition doit être proportionnée à la faute. Il y a des exagérations. Vous lui dites, prenez un cahier de 200 feuilles et écrivez, je ne viendrai plus en retard. Il le fait. Parfois, il se fait aider par ses amis, par ses frères, parfois même par les parents. Qu'est-ce que vous avez gagné? Du moment où vous avez touché la conscience de l'enfant, du moment où il s'est rendu compte qu'en venant en retard, il a perdu une partie de la leçon, lui-même peut se corriger. Il dira à l'avenir, je m'arrangerai pour ne pas être en retard. Et les punitions, par exemple, chute faciale, les jambes en l'air, ou bien les jambes contre le mur et la tête en bas.
Et la tête en bas.
Nous avons connu ces punitions. Quand nous discutions avec les amis, on disait... Et les coups de règle sur les bouts des doigts.
Sur le bout de doigt, là.
Ou bien même
ça chauffe, hein.
Un bâtonnet qu'on a arrangé les bouts comme un balai. On vous donne un coup sur la tête et les nervus vous tapent dans le dos. Vous ne savez même plus où gratter pour calmer la douleur. Ça vous apprend quoi? Généralement, un enfant dit, bon, papa battra, le maître me battra, je vais pleurer et après, il reprendra. Donc, il faut trouver des types de punitions qui peuvent aller par rapport à ce qu'on veut reprocher.
Mais dans certaines écoles, il y a un monsieur qui est craint par les enfants qu'on appelle préfet des disciplines. Donc, lui, il a toujours à côté de lui une bonne chicotte. Et dès que l'instituteur fait sortir un élève, il l'envoie vers le préfet des disciplines et lui, il se charge de le corriger.
Est-ce que ça paye toujours? Je vais vous donner un exemple, un cas. Dans ma propre école... Je vois deux garçons qui traînent un troisième vers moi. Et celui-là avançait comme s'il allait vers un supplice. Quand ils arrivent devant moi, je dis, bon, laissez d'abord ce monsieur tranquille. Et dites-moi, qu'est-ce qu'il a fait? Ah, monsieur le promoteur, il a dit que vous avez un gros ventre. Alors, tout le monde a retenu le souffle. Et l'incriminé et ceux qui le traînaient vers moi, ils attendaient ce que j'allais dire. Je dis, mais dites-lui tout simplement que je mange bien, c'est pourquoi j'ai un gros ventre. Et tous étaient stupéfaits. Et l'atmosphère s'est détruite. Ouais. Est-ce que vous pensez que cet enfant pourra reprendre pour dire à une grande personne? Évidemment, après, je l'ai appelé pour dire, attention, des choses qui ne sont pas convenables, qu'on ne peut pas dire dans certains milieux, surtout de certaines personnalités. Donc, là, j'amène l'enfant à comprendre que les défauts physiques des personnes, ou bien un excès d'embonpoint. Vous remarquez que j'ai un ventre plat quand même. C'est pas...
Je crois qu'avec cette... vous lui avez fait la remarque et prochainement, il ne va plus...
Je pense qu'il n'a jamais plus répété. Hein. Il n'a jamais plus répété. Parce que moi-même, à l'école primaire, un jour, je parlais d'un enseignant de... Il n'était pas titulaire de ma classe, mais il enseignait une classe parallèle qui était en boiteux. Bon, pendant la leçon, on donnait l'exemple d'un infirme. J'ai dit, ah, monsieur Samy. Ben, le maître m'a appelé. Il m'a dit, tu auras une punition. Tu vas te mettre au coin à chez nous pendant 5 minutes, mais on ne parle pas des défauts physiques des personnes, surtout celles qui sont devant vous. Et j'ai appris, j'ai retenu la leçon. Donc, on ne peut pas donner une punition type, mais il faut absolument comprendre que le point de départ, c'est faire comprendre à l'enfant fautif, toucher la conscience de l'enfant fautif pour qu'il se corrige.
Dans certains villages, les enseignants, dès qu'un enfant a commis la faute, on envoie aller couper le bois pour le maître ou aller puiser de l'eau pour la femme du maître et approvisionner sa maison en eau potable.
Oh ben là, je réagis tout de suite comme ceci. Si vous faites attention, vous remarquerez que les enfants répugnent certains travaux manuels. C'est parce qu'on les a érigés en punition. Pour aller faire un balai, aller ramasser des cailloux. Dans la formation des enfants, il est prévu qu'on leur apprenne certains travaux qu'ils doivent faire manuellement. Mais si vous dites à un enfant, les toilettes sont sales à l'école, que les enfants assurent peut-être la propriété des toilettes, mais si ça devient une corvée, l'enfant n'aimera plus jamais les travaux manuels. Ce n'est pas une punition. Faire un balai, c'est pas une punition. Aller nettoyer les toilettes ou bien balayer la salle de classe, c'est pas une punition. C'est une activité normale pour que l'homme apprenne que tout ne se fait pas que par des machines, par le cerveau, mais même les mains peuvent travailler. Donc, envoyer un enfant puiser de l'eau, mais même à la maison, qu'est-ce qui se passera? Quand on lui demandera d'aller puiser de l'eau, il se rendra compte, ah, on m'a puni. Alors que normalement, à la maison, en famille, à l'école, on peut lui demander d'aller puiser de l'eau. Sans que ça soit une punition, sans que ça soit une corvée.
D'accord. Nous avons deux auditeurs en ligne. Étienne nous appelle de Kananga. Omar Kigalo est à Kinshasa. Quel type de punition infliger aux élèves? Vous voulez également participer? Appelez au 081 890 63 94.
Le sport sur Radio Okapi, c'est une question de condition physique. Imaginez partir de Kinshasa en 800 mètres et... Débarquer en Bandaka, en canoë-kayak. Franchir les forêts de la province orientale en saut en hauteur. Décrocher une médaille de bronze à Lubumbashi. Traverser le lac Kivu à la nage, style papillon, et j'en passe. Okapi Sport. Un ensemble de correspondants et une équipe de présentateurs bien en forme pour vous apporter l'information sportive là où vous vous trouvez. Okapi Sport. Car la passion du sport est sur Radio Okapi.
Quel type de punition infliger aux élèves turbulents ou dérangeurs en classe? Étienne, vous êtes à Kananga, bonjour.
Bonjour, monsieur Jelly, bonjour.
On vous écoute, Étienne.
Ok, j'aimerais te poser la question de savoir à notre invitée, parce que j'ai remarqué à l'école primaire, tout comme à l'école secondaire, il y a des élèves, excusez-moi le terme, vraiment très 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 mal éduqués. Donc, l'élève, même si on donne n'importe quel type de punition, il n'arrive pas à se mettre sur le rail. Alors, l'enseignant de l'école primaire prend une décision d'écarter l'élève d'une manière directe, indirecte. C'est-à-dire, quand il y a une interrogation, même si l'élève est présent, l'enseignant ne veut pas corriger le papier. Lorsqu'il a sa liste de présence à main, il ne cite même pas le nom de l'élève. Quand il pose des questions aux autres pour savoir si la leçon a été bien accumulée ou pas, donc il ne s'intéresse pas à l'élève en question. Alors, je voudrais peut-être demander à notre invité. N'est-ce pas qu'il fallait chasser César de l'élève à l'école que Oui, je sais parce que je vois que la punition est plus forte que faire quitter l'élève de l'école. Maintenant, concernant l'école secondaire, le soi-disant professeur, je ne sais pas comment pouvons-nous appeler les enseignants de l'école secondaire parce que le professeur, ça semble un peu me dépasser à un certain niveau. Bon, quand cela la tienne, il mérite d'être appelé professeur comme nous l'avons déjà toujours habitué. Mais quand le professeur entre, il trouve que l'élève est têtu, il lui demande de quitter la salle. Chaque fois que le professeur entre, demande à l'élève de quitter la salle. Je ne sais pas si notre invité peut encourager ce genre de sanctions.
D'accord, merci. Omar Kigalo, vous êtes à Kinshasa, bonjour. Omar, bonjour. Voilà, il n'est plus là, il va sûrement nous rappeler. Bien, vous avez suivi Étienne.
Oui, j'ai suivi Étienne.
Monsieur Jean, qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Ce que j'aimerais dire à Étienne, nous avons une obligation de par la loi de faire en sorte que tous les élèves aillent à l'école. Et quand vous mettez un élève dehors, qu'est-ce que vous gagnez? Ensuite, il faut savoir d'abord pourquoi un élève dérange. Parfois, la leçon ne l'intéresse pas. Peut-être qu'il a un problème sérieux en venant à l'école, il a eu des problèmes à la maison. Peut-être que il est menacé par un voisin, il est dérangé par un voisin. Donc, il y a un ensemble de problèmes qu'il faut étudier pour comprendre pourquoi un enfant dérange. Le maître dehors, parfois, nous l'avons dit tout à l'heure, c'est satisfaire à l'exigence, à la demande de l'enfant, au souhait de l'enfant, qui ne préfère pas rester en classe. Il vous dérange pour que vous le mettiez dehors. Là, c'est lui qui a gagné. Mmh. Et vis-à-vis de la société, vous ne l'avez pas aidé. Alors, souvent, qu'est-ce qu'il est conseillé de faire? Un enseignant, après un mois, doit pouvoir connaître les élèves de sa classe. Il sait qui est turbulent, qui a tendance à déranger tout le temps. Dans ma pratique d'enseignant, ce que je faisais souvent, l'élève turbulent, je ne le laisse pas tranquille, je le fais travailler. Mmh. À tout instant, il a une question.
Parfois, l'installez peut-être sur au niveau des deux premiers.
Pas nécessairement, mais je sais les situer dans la classe. Mmh. À tout moment, je le surprends par une question. Et à ce moment-là, je l'éveille à l'attention, je l'attire à suivre la leçon.
Il est obligé de se concentrer.
Il est obligé de se concentrer. Oui. Parfois, il s'est fait tout petit, il dit, mais chaque fois que je me ferai remarquer, je recevrai une question. Mm. Ça, c'est une façon de maîtriser aussi les élèves dans une classe. Mais parfois aussi, vous pouvez remarquer que cet enfant, bien que turbulent et intelligent, vous pouvez même lui demander d'expliquer certaines situations ou certaines choses à ses voisins, à ses amis. Il devient un partenaire dans la conception ou dans le déroulement de la leçon. Mmh. Donc, il y a plusieurs façons d'occuper les enfants pour qu'ils ne soient pas que des dérangeurs.
Donc, si les enfants dérangent, ça veut dire que tout le temps, le maître n'arrive pas à maîtriser sa classe.
Oui, bien sûr. Oui. Souvent,
il ne sait pas canaliser cette énergie-là.
Il ne sait pas canaliser cette énergie, comme vous le dites. Mmh. Et il ne connaît peut-être pas sa classe.
Étienne nous dit un enseignant qui a décidé carrément d'ignorer un élève dérangeur. Donc, il corrige pas ses papiers. Et quand il fait l'appel nominal, on ne cite pas son nom, tout ça, la liste des présences. On l'ignore carrément. Est-ce que ça, c'est une bonne punition?
C'est la stigmatisation. Ça, c'est pas correct. C'est défendu même par la loi. Vous n'allez pas citer son nom quand vous faites l'appel. Quel rapport vous ferez de la présence de cet enfant à la fin de l'année, à la fin du trimestre, à la fin de la période? Il y a d'autres façons aussi d'aider ces enfants à se corriger. On peut inviter ses parents. On peut tenir un conseil de discipline. Il y a plusieurs possibilités. La loi a prévu certaines de ces situations qui peut être prises en charge par un groupe d'enseignants. Je donnerai un exemple concret. Aujourd'hui, nous avons une dame qui a été élève dans mon école. En deuxième primaire, c'était une élève impossible. Mais heureusement, l'enseignante qui a été son titulaire de classe a usé d'une stratégie très intéressante.
Laquelle?
Elle a pris l'enfant en amitié et lui confiait certaines tâches en classe. Par exemple, ranger les livres. Par exemple, s'occuper de donner un petit coup de... pour enlever la poussière sur la table de l'enseignante. Mmh. Et pendant la récréation, cette enseignante était presque tout le temps avec cet enfant. Et même parfois à la sortie. Petit à petit, l'enfant s'est rendu compte que l'enseignante l'a prise en affection. Parce que le moindre effort à faire, c'est de montrer de la compréhension, de montrer de l'affection aux élèves pour qu'ils se sentent considérés. Il y a, par exemple, nous nous sommes inspirés des travaux de Gordon, qui a publié un ouvrage très intéressant, « Enseignant efficace, enseigner et être soi-même ». Voici ce qu'il dit. Généralement, le langage de la force et de l'autorité ne sont pas des bonnes méthodes pour occuper les enfants. Parce que cela induit un vocabulaire qui se place, qui est contrôlé, ordonné, punir, maintenir l'ordre. Et nous devons remplacer ce vocabulaire par clarifier le problème, résoudre les conflits, négocier avec les enfants, vaincre les obstacles dans un effort commun. Dans mon école, il est arrivé une fois, j'ai réuni les élèves de 5e des humanités, je leur ai fait lire le règlement d'ordre intérieur de l'école. Et je leur ai dit, comment le trouvez-vous ce règlement? Les enfants eux-mêmes ont rectifié certains principes, certaines clauses du règlement intérieur, et ont rendu certaines dispositions beaucoup plus dures que ce que nous avions prévu nous-mêmes.
Eux-mêmes. Ah ben voilà, je reviens à vous dans quelques instants, le temps d'accueillir 3 auditeurs. Jérôme est à Kalemi, Yaman est à Bukavu, Jimmy nous appelle des Bénis. Jérôme, bonjour.
Bonjour monsieur.
Quelle est votre question?
Oui, je voudrais contribuer concernant le sujet d'aujourd'hui.
Oui.
Notre invité nous dit qu'il ne faut pas fouetter les enfants, tout ça, ça ne contribue pas très bien à leur éducation. Mais je pense à l'époque... Nous avions des professeurs là qui sont très méchants. Si quelqu'un ne sait pas parler bien, on les fouette. Si quelqu'un arrive à l'état, on les fouette. Les élèves étaient en tout cas très bien. Mais aujourd'hui, avec cette situation que vous venez d'évoquer là, un élève peut s'absenter, il peut arriver à l'état, il ne s'inquiète de rien.
Oui, vous voulez dire qu'aujourd'hui, on ne punit plus. L'enfant peut venir quand il veut, il n'y a pas de punition.
Oui, parce qu'à l'époque, quand on punit les enfants s'est donné à étudier. Même, je pense même à l'époque, il y avait des professeurs à des conjugaisons, même à l'école primaire. Si quelqu'un ne sait pas conjuguer très bien, on les fouette. Demain, il sera aussi à la page comme les autres. Mais aujourd'hui, si les enfants, on les fouette, ça devient difficile.
D'accord, merci.
Il ne se base pas des études et tout ça.
D'accord. Donc, le fouet a toujours résolu beaucoup de problèmes. Amani, vous êtes à Bukavu. Merci, Jérôme. Amani, vous êtes à Bukavu. Bonjour.
Oui, bonjour Radio Kati et bonjour à l'invité.
On vous écoute.
J'ai des petites questions à poser à l'invité. La première question est de savoir. Quand est-ce qu'on donne à un étudiant ou à un élève une inscription temporaire à notre participation au cours? Est-ce que c'est une punition qu'on peut envisager? Inscription temporaire au cours, c'est une punition qu'on peut envisager pour changer le comportement de l'élève. Et la deuxième question est de savoir, la punition qui relève ou qui révèle la conscience de l'élève, c'est quel genre de punition qui révèle la conscience de l'élève? Je vous salue et je vous souhaite bonne journée. C'est Amani Omozi Mathieu de Bukavu.
Merci. Jimmy, vous êtes à Beni, au nord Kivu. Bonjour.
Bonjour, jeudi.
On vous écoute, Jimmy.
Ok, moi, je crois que je souhaite qu'on ne fête pas les enfants. La punition, la meilleure punition, c'est de parler à l'enfant, de faire voir sa faute. J'ai un témoignage de mes deux enfants. Il y avait un aîné qui se dérangeait un peu, pas à l'école, mais à la maison, il faisait des choses là, qui n'allait pas. Alors, quand j'ai appelé l'enfant, on s'était mis au salon, j'ai commencé à dire à l'enfant, je lui ai parlé de sa faute et il a reconnu sa faute. Je dis, que l'enfant a quitté là-bas en pleurant. Bon, moi, je crois que la meilleure façon, c'est de montrer l'enfant sa faute. C'est la meilleure fouet. C'est la meilleure façon de punir l'enfant. Et cet enfant n'a jamais repris la faute. Parce que de là, il avait quitté, ça plaira. La petite sœur, c'est la même chose. J'avais le même véhicule là. La petite sœur, elle est allée abîmer ce véhicule là. Mais quand j'ai appelé la sœur voir sa faute, sa petite sœur, en tout cas, elle était calme, elle a vu que réellement, elle a mal agi. En tout cas, ces deux enfants-là, tous deux étaient sortis là-bas. Tout en plaira. Moi, je crois que la meilleure façon, c'est de parler à l'enfant, laisser voir sa faute. Si Si l'enfant est suivi, c'est pour son avenir, ce n'est pas là pour l'avenir de ses parents. D'abord, peut-être pour ses parents, mais d'abord, c'est pour lui d'abord.
D'accord.
Moi, de la meilleure façon, c'est de donner à l'enfant, les montrer de sa porte.
D'accord, merci Jimmy de Béni. Alfred, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Alfred.
Oui, je voulais apporter une contribution à l'émission.
Oui.
Oui, c'est vrai ce que l'invité a dit, que la punition est là pour la correction. C'est vrai, moi je suis pour les punitions qui amènent l'élève sur le plan mental à se rendre compte de sa propre faute afin de lui aider à se corriger plutôt que des punitions qui consistent à frapper physiquement, à faire donner la peine ou souffrir l'élève sur son propre corps. Ça pousse l'élève à se venger ou à se rebeller. Mais il y a une chose que je voulais ajouter.
Oui.
Parce que je suis aussi du domaine. Il y a certains enseignants qui font des punitions collectives, ce n'est pas mauvais. Quand il y a un aspect qui n'est pas bien dans la salle, un dérangement, l'enseignant doit chercher à localiser les victimes, celui qui a causé l'acte ou celui qui a dérangé,
oui.
Au lieu de procéder à punir 4-5 parce qu'ils étaient en groupe, il y en a deux qui ont dérangé, ils ne se sont pas fait savoir, mais l'enseignant vient, il punit 4-5, il punit tout le monde. Quand il fait la punition collective, les innocents sont punis, ils sont blessés, mais les victimes se réjouissent, ce n'est pas bien. Voilà ce que je voulais apporter. Il faut éviter les punitions collectives.
D'accord, merci. Emmanuel, vous êtes à Calémi, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
Bonjour, monsieur Jedi.
Quelle est votre question, Emmanuel?
Oui, monsieur Jedi, vraiment, nous regrettons parfois les enseignants qui donnent cours à l'école primaire, soit à secondaire. Parfois, vous regardez la qualité de cet enseignant n'est pas du tout pédagogique. Parfois, cet enseignant, il a fait la maths physique, soit la biologie chimie. Aujourd'hui, vous allez le voir en train d'enseigner à l'école primaire. Mais ceci, ça nous fait étonner beaucoup.
Oui, aujourd'hui, nous parlons des punitions à infliger et non de la formation des enseignants. Est-ce que vous avez une question par rapport au type des punitions? Non, il n'y a pas. Bien, je reviens à vous, Jean Moupépé.
Ce sont des enseignants qui ont...
Oui.
Surtout, ce sont des enseignants qui n'ont pas la pédagogie, qui traitent mal les enfants. Parce qu'ils n'ont pas, ils n'ont pas la vocation.
Voilà, ils n'ont pas la vocation, il a fait la maths physique, il se retrouve là-bas comme instituteur, donc il connaît pas les règles de la pédagogie, bon, c'est ce type d'enseignant-là qui tape beaucoup les enfants. Merci. Chris Mutombo, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Oui, bonjour Jody, bonjour à notre invité, bonjour à tous les auditeurs de la radio.
Quelle est votre préoccupation, Chris?
Oui, merci beaucoup de cette thématique du jour. J'aimerais un peu ajouter et après poser un peu une question sur base de cette thématique.
Oui.
Puisque aujourd'hui, la plupart des enfants qui quittent la maison, et plus particulièrement les écoliers qui quittent la maison vers l'école, bon, la plupart sont déterminés à aller déranger à l'école, faire n'importe comment. Mais dès lors qu'ils dérangent ces écoles là où ils étudient, peuvent accéder à des disciplines. Il y a des écoles, bon, qui peuvent demander à ces élèves-là dérangeurs d'acheter 4 chaises comme punition, 3 chaises comme punition. Alors, ma question est celle-ci pour un peu être éclaircie par notre invité. Est-ce que ces disciplines, ce genre de disciplines octroyées à ces enfants dérangeurs, est-ce que c'est normal? Est-ce que ça peut causer, n'est-ce pas, une compréhension par rapport à l'acte qu'ils viennent de faire? C'est un peu c'est une question que j'ai voulu un peu poser.
Bien, merci. Monsieur Jean Moufépé, vous avez la parole.
Oui, jeudi, je remercie tous les auditeurs qui ont posé des questions.
Oui.
Je remercie Jimmy et Alfred qui sont allés en ligne droite de ce que j'ai dit. Mais j'aimerais relever un fait. Les enfants sont issus de nos familles, de nos sociétés, de notre société. La première éducation vient de la famille. Et nous avons dit ici dans une émission passée que la personnalité de l'enfant se forme entre 0 et 6 ans. C'est pourquoi les institutions qui se préoccupent de l'éducation des enfants disent que ce sont des périodes où il faut faire très attention sur la formation de la personnalité de l'enfant. Et deuxième chose, l'école, c'est une institution pour la socialisation des enfants. La famille ne peut plus continuer cette éducation seule. C'est ainsi que la société envoie les élèves vers l'école. Donc l'école a une grande mission pour continuer cette action de formation, cette action d'intégration des jeunes enfants dans la société. Et quand nous parlons de la punition, on dit à notre époque, mais une époque ne vaut jamais une autre. Et je m'attendais à ce qu'on pose la question, par exemple, les Belges nous ont formés à la chicotte. Et il y a eu, quand Mzé a pris le pouvoir, on nous a redressé certains comportements à la chicotte. Mais comme nous disons, il s'agit de l'environnement, du conditionnement dans lequel vous mettez les enfants. Je prends le cas de Kinshasa. À un moment donné, pour prendre place à bord d'un bus, on devait se livrer à un sprint terrible. Mais maintenant qu'on a mis des conditions qui peuvent permettre aux gens de prendre un bus normalement, est-ce que vous voyez encore des gens courir derrière les bus de Transco, par exemple?
Il y a plus assez de marathons. Hein?
Non.
Il y en a presque plus.
La discipline s'est imposée d'elle-même. Parce qu'il y a eu un environnement créé qui permet aux gens d'être sûrs qu'ils vont prendre un bus dans les 5 minutes qui suivent, dans les 10 minutes qui suivent. Donc, dans la formation des enfants, ce sont les mêmes conditions, le même cheminement que nous devons
suivre. Mais Jérôme de Calimi nous dit, à l'époque, lorsqu'on fouettait les enfants sérieusement, même pour celui qui n'arrivait pas à bien conjuguer le verbe être, si on le fouette demain, il va rapidement corriger et il va bien réciter.
Une époque ne vaut jamais une autre, je dis. Aujourd'hui, les enfants ont plusieurs possibilités pour apprendre à conjuguer. Ils ont en carta, ils ont beaucoup de jeux, ils ont les mots croisés, ils ont etc. Scrabble. Donc, nous ne pouvons pas dire qu'il faut enseigner, faire entrer les notions par la chicotte. Et la chicotte, vous tapez quelle partie? Les notions entrent dans quelle partie? Dans les fesses. Quand vous tapez sur les fesses, les connaissances entrent par là. Ou quand vous tapez au mollet. Nous maintenant.
Voilà, paume de main, souvent.
Nous insistons pour dire que ce sont des vieilles méthodes qu'on doit bannir parce que d'abord, on ne les conseille plus.
Bien, il y a Amani de Bukavu qui nous dit, est-ce que le fait d'exclure temporairement un élève de la classe, il veut savoir si c'est une bonne punition ou pas?
Ça ne doit pas se faire au hasard. Il y a un règlement qui est prévu. Toutes les écoles du pays ou du monde ont érigé certaines normes, certains principes qui doivent être d'application, qui doivent être respectés pour que la vie soit possible, soit acceptable dans une classe. Nous n'allons pas à l'école, les enfants ne vont pas à l'école pour aller déranger. Et c'est là où je contredis, c'est lui qui dit il y a des enfants qui quittent la maison avec l'intention d'aller déranger.
D'aller déranger en classe.
Si ils trouvent ce qu'ils vont chercher à l'école, ils ne dérangeront pas. Si on sait capter leur attention pour qu'ils suivent une leçon, ils ne dérangeront pas. S'ils trouvent un intérêt dans ce qu'on leur enseigne, ils ne dérangeront pas. Des cas peuvent arriver, mais là on fait recours au règlement intérieur qui prévoit dans quelles conditions, pour quel problème on doit mettre un enfant en exclusion. Temporaire, remarquez-le. Il a dit temporaire. Pas définitif, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure. On ignore carrément la présence de l'enfant en classe. Non, ça ne peut pas aller. Donc, nous disons que quand il y a des problèmes, il faut d'abord approcher l'enfant. Je crois que c'est Jimmy qui l'a dit. Approcher l'enfant, parler avec lui. Et tâcher de savoir...
Il a fait ça avec ses deux enfants.
Oui.
Il a parlé aux enfants et il dit même les enfants sont partis en pleurant.
Voilà. Ça signifie qu'il a touché leur conscience. Ça signifie qu'il vraiment il a fait remarquer aux enfants que ce qu'ils ont fait était mauvais. Parce que quand vous faites pour donner une punition qui humilie, qui diminue, vous amenez l'individu à la révolte comme nous l'avons dit. Essayez, vous verrez.
Alfred de Lumbashi dit, il dit qu'il faut pas donner une punition collective. Il y a un groupe d'élèves derrière qui dérangeait et l'enseignant ne sait pas identifier les fauteurs de troubles. Alors il punit tout le groupe.
Mais Alfred a parfaitement raison. Bon, j'ai pour habitude, par exemple, quand on dit, il y a des voleurs dans ce groupe-là. Je me sens voleur, mais si en conscience je ne suis pas voleur, je me révolte. Je me dis, mais c'est pas juste, c'est pas correct. Les punitions corporelles ont ceci comme défaut. Vous n'arrivez pas à dénicher l'auteur de la faute et vous ne l'aidez pas à se corriger. Or, nous disons, quand vous punissez, L'objectif, c'est d'aider l'individu à comprendre que l'acte qu'il a posé n'est pas acceptable, ne permet pas à la société de continuer à évoluer normalement. Donc, vous devez identifier celui qui a commis la faute. Et ceux qui sont punis injustement, ils n'ont pas commis de faute, vous les incitez à se révolter. Parce que vous les avez punis injustement.
Injustement,
bien sûr. Pour une faute qu'ils n'ont pas commise.
Tout à fait. Et Chris Mutombo dit, le fait de demander à un élève qui a dérangé d'aller acheter 4 chaises et d'amener ça en classe demain, sinon il va pas entrer, ou, de demander aux élèves qui ont dérangé d'aller chercher 1000 francs, et demain qui ramène ça au préfet des disciplines.
Vous risquez de l'inciter au vol. Une chaise, si vous pouvez évaluer actuellement, c'est à peu près 10 dollars. Vous lui demandez d'amener 4 chaises. Ça fait 40 dollars. Où est-ce qu'il va prendre l'argent? Il va aller voler. Vous lui demandez un balai. C'est 1000 francs. Et si les parents n'ont pas le moyen de lui donner 1000 francs pour acheter un balai, chaque fois qu'il dérangera, qu'est-ce qu'il fera? Il ira voler.
Voilà. Donc on retient, la meilleure punition, c'est celle qui touche la conscience de l'élève. Donc il faut arriver à interpeller l'élève et l'amener à réaliser sa faute.
Oui.
Alors à ce moment-là, il va rapidement se corriger. Il va plus commettre la même bêtise.
Il y a de fortes chances qu'il se corrige.
Bien. Merci Jean Moupépé. Je rappelle que vous êtes promoteur d'école et expert en sciences de l'éducation. Merci d'avoir répondu à notre invitation et à la prochaine.
C'est moi qui vous remercie. À la prochaine.